en podcast comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime, une émission préparée comme chaque jour tout au long de l'année par Perrine Suquet avec Charles Deluermoz. C'est François Touchard qui est à la réalisation technique de cette toute dernière émission de L'heure du crime pour l'année 2016. À la une, aujourd'hui, une affaire qui a provoqué une véritable psychose pendant trois longues années. C'était à la fin du XVIIIe siècle, en Lozère, aux confins du Vivarais et du Gévaudan. Nous partons aujourd'hui donc sur les traces sanglantes d'une bête inconnue qui a attaqué 250 personnes, en majorité des femmes et de jeunes enfants, entre avril 1764 et juin 1767, faisant au moins 130 morts et 70 blessés. Cette affaire de la bête du Gévaudan a fait couler par la suite autant d'encre que de sang, si l'on peut dire, des dizaines de livres, des milliers d'articles, des documentaires, des films de fiction qui se sont inspirés des hypothèses émises au fil du temps par des historiens, mais aussi par des journalistes, des zoologues et même des criminologues. Et pourtant, on peut dire que le mystère plane encore aujourd'hui d'une certaine façon sur l'identité du véritable auteur de cette tragédie. Un loup, un ours, une hyène, un hybride entre loup et chien, on a même parlé d'un singe à tête de chien, à moins qu'un maître diabolique et criminel ait téléguidé une bête dressée à tuer. Et c'est cette dernière hypothèse qui est au cœur d'un roman de celle que vous venez d'entendre sourire à la radio. Bonjour Catherine Hermary-Vieille.
Bonjour Jacques Pradel.
Vous aviez publié il y a quelques années La Bête, c'était aux éditions Albin Michel, votre éditeur habituel. Et la semaine dernière, vous étiez notre invité pour parler de l'assassinat du duc de Guise.
Oui.
Et puis, voilà, on prend un café après l'émission. Je vous dis, tiens, on a envie de parler de la bête du Gévaudan. Et vous me dites, mais moi, ça a été une histoire extraordinaire. Vous avez publié donc ce roman, La Bête. Qu'est-ce qui fait que vous avez été à ce point fasciné par l'histoire de la bête du Gévaudan ?
Cette histoire m'habitait depuis très longtemps. J'avais envie de... Elle mûrissait en moi tout doucement. Et c'est plutôt l'ensemble qui m'a fascinée, c'est-à-dire le décor, l'époque, ces hivers qui n'en finissent pas, cette cruauté latente, cette violence, la misère des habitants. Et puis, une longue conversation avec quelqu'un qui malheureusement est décédé, qui était donc Gérard Ménatori, qui était un des grands spécialistes de la bête du Gévaudan, qui était arrivé à une conclusion qui m'a fascinée. Elle m'a fascinée parce qu'elle était logique et qu'elle faisait intervenir différents éléments qui se complétaient parfaitement pour expliquer ces crimes en série qui sont uniques dans l'histoire de France. C'est peut-être la plus grande affaire criminelle que la France ait connue depuis qu'il y a des mémoires sur les affaires criminelles. Et le tout dans un contexte tellement, j'allais dire, de brume, de froid et puis de sauvagerie, que pour un écrivain, c'était magnifique, c'était un sujet en or.
Voilà, et donc il s'agit de l'association d'un tueur en série, n'ayons pas peur des mots, avec une bête qu'il a dressée. Mais quelle bête ? Un loup, une hyène, etc., etc. Nous allons voir tout cela ensemble tout à l'heure et voir les arguments qui vont dans le sens d'une association homme-bête pour commettre des crimes. Mais d'abord, voyons comment tout a commencé. Nous sommes dans le sud-est du Massif central, non loin des impressionnantes gorges de l'Allier et de la Truyère, un pays de hauts plateaux, de montagnes, battus par les vents, couverts de vastes pâturages et de forêts profondes avec des grottes, des ravins, des torrents, des rochers de granit aux formes étranges, auxquels se rattachent d'ailleurs de vieilles superstitions païennes, des histoires de fées et de sorciers. Le soir et la nuit, on entend souvent à cette époque les cris lugubres de loups sauvages qui se répondent d'une vallée à l'autre. Les maisons, elles, sont faites de pierres épaisses, massives, avec des toits de lauzes qui abritent une majorité de paysans qui sont surtout des éleveurs de moutons et de vaches. Et à cette époque, il faut ne pas l'oublier, la vie est dure. pour tout le monde. Les famines sont fréquentes. Et pendant que les hommes cultivent les fourrages qui nourrissent leurs animaux, eh bien les enfants, les filles, les garçons gardent les troupeaux dans les environs des villages et des hameaux. Au printemps 1764, une femme qui garde son troupeau sur les bords de l'Allier est attaquée par, dira-t-elle, une grande bête. Ses chiens n'ont pas bougé, ils semblaient même terrorisés, dira-t-elle plus tard. Elle n'a dû son salut qu'aux vaches, parce que les vaches ont chargé la bête pour protéger leurs veaux. À quoi ressemblait l'animal ? Il était comme un grand loup, dira-t-elle. Ses longs poils, je la cite, étaient de couleur rousse, avec une grande raie noire sur le dos, comme en ont les sangliers. Dans le village, personne ne croit ce témoignage et tout le monde pense que cette femme a dû croiser le chemin d'un loup solitaire qui s'est vite enfui et son imagination a dû faire le reste. Fin 1764, une fillette du hameau des Ubas, paroisse de Saint-Étienne de Luc d'Arès, est portée disparue. Elle s'appelle Jeanne Boulet, elle a 14 ans. On retrouve son cadavre à la lisière d'une forêt toute proche. Elle a été partiellement dévorée. C'est la première victime officielle de celle qu'on appellera la bête. Le 8 août, trois bûcherons qui travaillent près du village du Masmejean d'Allier voient un troupeau de moutons qui dévale une colline. Ils montent au sommet et ils découvrent le cadavre horriblement mutilé de la bergère, une jeune fille de 15 ans. Elle a été attaquée à la gorge et à la poitrine. On voit des marques de crocs sur tout le corps. Le 25 août, c'est au tour d'un petit vacher de 15 ans du village de Chélard-l'Évêque, tué, dévoré lui aussi par une bête sauvage. Dans la région, maintenant, on ne parle plus que de ça. Et on s'étonne de ces loups qui se mettent à attaquer des gardiens de troupeaux en plein été. La faim ne peut pas être le mobile de ces attaques. Il y a évidemment du gibier plein les forêts. Et puis, les loups, tout le monde le sait, craignent les hommes. Ils sont peureux. Des battues de chasseurs sont donc organisées par de nombreux villages, près de Langogne, dans la forêt de Mercoire. Mais la bête attaque toujours hors de leur vue, dans des endroits éloignés les uns des autres. Le 1er septembre, ça recommence. Un garçon de 15 ans tué au hameau de Pradel, près de Chaudérac. Et puis le soir du 6 septembre, c'est dans un village cette fois. La victime est une femme de 36 ans, attaquée et tuée dans son potager. Or les loups n'entre jamais dans un village. Le 26 septembre, une fillette de 13 ans est dévorée. Le 28, nouveau drame à des kilomètres dans l'ouest de la région, à Rieutort-de-Randon. Une fillette de 12 ans qui ramène son troupeau. Elle est tuée sous les yeux de sa mère qui l'attend devant la porte de sa maison. La description de l'animal est toujours la même. Une grosse bête rousse, velue, une grosse tête, une gueule énorme, une raie noire sur le dos, de fortes pattes, de longues griffes dont on voit les marques sur le sol. Bilan, du printemps à fin septembre 1764, 10 morts, 6 blessés graves. Et en octobre, ça reprend. Le 7, près du village d'Apché, une fille de 20 ans, la tête a été tranchée nette. On ne la retrouvera qu'une semaine après, avec des marques de crocs. Le 8 octobre, au Pouget, paroisse de la Fage, Montivernoux, un garçon de 15 ans. Il se défend avec une baïonnette, il blesse la bête. Une bande de ses camarades arrive, il lance des pierres qui font fuir l'attaquante. Grave blessure à la tête pour le petit berger. Et ça continue. 10 octobre, village de Rimes, près d'un lavoir, cette fois, un garçon de 13 ans, gravement blessé. Les lavandières ont attaqué la bête à coups de battoir pour la faire fuir. Mais une heure plus tard, deuxième attaque au lieu dit Bergougnous. Deux frères de 13 et 6 ans et leur sœur de 10 ans. C'est elle que la bête essaie d'emporter dans la forêt toute proche. Les garçons la blessent, elle s'enfuit. Fin octobre, le bilan s'est encore alourdi. 14 tués, 13 blessés, 20 attaques en 2 mois. Pourtant, il faut continuer d'aller travailler au champ. Les enfants sont indispensables, on l'a dit, pour garder les troupeaux. Alors les battues reprennent, on parsème le chemin de la bête avec des charognes empoisonnées, on fait appel à la troupe, les dragons, à la sinistre réputation qu'on n'aime pas trop dans les campagnes, ils sont quand même appelés à l'aide. Mais la bête semble invulnérable et la plupart du temps invisible, sauf, bien sûr, pour les malheureuses victimes. Après ces quelques mois, L'émotion est à son comble dans toute la région. La bête semble invulnérable, elle déjoue tous les pièges, elle ne touche pas aux proies empoisonnées, elle paraît insensible aux coups de baïonnette et même aux balles de fusil. Alors, on parle de sorcellerie, on raconte des histoires de loups-garous, des personnages mystérieux qui auraient le pouvoir de se transformer en loup pour se repaître du sang de leurs victimes. L'Église réagit, bien sûr. Les curés, eux, évoquent une punition divine. On dit des messes, on organise des pèlerinages. Rien n'y fait. On parle maintenant, officiellement, de la bête du Gévaudan à la cour. Le roi Louis XV promet une véritable fortune à qui tuera la bête qui, au fil des mois, semble avoir élu domicile dans les environs du mont Mouchet. Les chasseurs de primes viennent de tous les environs. Le roi envoie en Gévaudan son propre lieutenant des chasses, qui finira par tuer, au bout de 3 mois de battue, un très grand loup, que tout le monde pense être la bête. Nous sommes le 21 septembre 1765 et de fait, les attaques cessent pendant 2 mois et demi. Mais bientôt, tout recommence et pendant 18 mois encore, la liste des victimes va continuer à s'allonger. Et puis, le 19 juin 1767, un vieux paysan qui a fait fondre des médailles de la Vierge pour en faire des balles de fusil abat la bête d'un seul tir au pied du mont Mouchet, justement. Il s'appelle Jean Chastel. Grâce à lui, on va savoir enfin si l'animal qui a fait trembler toute une région pendant plus de 3 ans était ou non un loup. Alors on examine le cadavre. Et on découvre qu'il ne ressemble pas à un loup ordinaire. Son pelage en particulier est différent, il est rougeâtre, étrange. En tout cas, c'est un mâle. On charge le corps de la bête sur un cheval, on l'amène au château de Besque. À la pesée, il accuse 109 livres, c'est-à-dire 53 kg 300. Sa hauteur à l'épine dorsale est de 77 cm. Chacun de ses crocs est long de 37 mm. Et sa peau a gardé des traces d'anciennes blessures par balles, mais pas de toutes. Quant à la raie noire du dos, décrite par tous les témoins, elle est absente. Alors on appelle un chirurgien aussi, qui ouvre la panse de la bête. Son estomac contient une tête de fémur d'enfant d'âge moyen, ce qui correspond à la dernière victime, un enfant effectivement, attaqué par la bête 24 heures plus tôt, près du village de Dège. L'énigme est donc résolue, du moins en apparence. Car il existe peut-être une toute autre explication à cette incroyable affaire. La bête du Gévaudan, c'est la thèse de mon invité Catherine Hermarie-Vieille, la bête du Gévaudan a peut-être été dressée et téléguidée par un psychopathe pervers et sadique, un tueur en série, qu'il aurait dressé pour assouvir ses instincts meurtriers. Une pause tout de suite dans cette émission et on vous retrouve, Catherine Hermarie-Vieille. Et là, eh bien, on va vous retrouver surtout avec vos arguments pour que vous nous expliquiez pourquoi vous pensez à cette association terrible entre un homme tueur en série et une bête.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les deux invités aujourd'hui, la bête du Gévaudan et Catherine Hermarie-Vieille. Vous étiez, on le disait tout à l'heure au début de l'émission, vous étiez notre invité il y a une semaine pour parler de la Renaissance et de l'assassinat du duc de Guise. Mais votre précédent roman, donc il est aussi relativement récent, s'intitulait précisément La Bête. Alors, c'était chez Albin Michel, votre éditeur habituel, et c'est un roman, c'est-à-dire que vous avez voulu à la fois avancer des arguments extrêmement concrets, rationnels, historiques, mais en même temps garder cette liberté de remplir les blancs que nous laisse l'histoire, quoi.
Tout à fait, et d'émettre quand même une hypothèse personnelle. Parce qu'en étudiant cette histoire, on arrive fatalement à en tirer des conclusions. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc c'est une histoire qui m'a fascinée par l'intelligence d'abord de cette bête qui comprenait tout, qui était là quand personne n'était là, qui n'était pas là quand il y avait des gens prêts à la capturer ou à la tuer, qui s'éclipsait quand les fameux chasseurs du roi sont venus, et qui attaquait à 20 km de l'endroit où ils étaient. Donc elle avait une tactique, cette bête. Et en même temps, il y a un récit parallèle d'une famille du village, d'un village du Gévaudan, qui s'appelait les Chastel, que vous avez mentionné tout à l'heure. Un père, justement, un peu sorcier, 2 fils, dont un fils toujours marginal, qui a vécu dans la forêt, qui est très proche des animaux, et qui est un homme peu sociable. C'est un homme que les villageois tiennent à l'écart. C'est un homme dont les filles se moquent. Donc c'est quelqu'un qui est assez en colère contre les autres. Et puis qui se réfugie dans cette forêt qui est la sienne, qu'il connaît parfaitement.
Alors, on va revenir à ce fils Chastel, parce qu'il y a toute une famille Chastel. Il y a l'homme qui a tué avec la balle fondue en argent, hein, dans une statuette de la Vierge en argent. Mais avant d'en venir aux hypothèses, que ce Chastel dont vous parlez, il a été garde forestier, puis il est parti de France, il est revenu, et mystérieusement, il s'est passé quand même quelque chose, bon, qui peut-être explique votre hypothèse. Mais d'abord, revenons, Catherine Hermarie-Vieille, puisque vous savez, vous êtes dans une émission qui s'appelle L'heure du crime, donc on parle souvent de scènes de crime, on parle souvent des constatations des enquêteurs, et même là, si on est à la fin du XVIIIe siècle, les gens savent regarder une scène de crime, et Dieu sait s'il y a des soldats et des policiers qui ont regardé les victimes. Qu'est-ce qui indique sur les scènes de crime qu'il pourrait y avoir autre chose qu'une attaque animale ?
Mais certains cadavres sont tout à fait déroutants. Certains cadavres ont été déshabillés et on voit mal un loup déshabillant une de ses victimes. Certains cadavres sont complètement décapités, beaucoup. Or, un animal ne peut pas décapiter un être humain, surtout les animaux vivants en France. C'est pas, peut-être on pourrait penser à un tigre ou à un lion, mais ils ne hantent pas les forêts du Gévaudan.
D'ailleurs, Gérard Ménatori, dont vous parliez tout à l'heure, qui, on n'a pas dit, mais qui avait installé en Lozère, c'est lui qui avait créé le parc au loup,
oui.
Du Gévaudan. Hein.
Oui.
Il vous a dit, et vous le confirmez dans votre livre, que un loup ne peut pas même physiquement décapiter quelqu'un.
Oui, un loup ne peut pas faire la plupart des choses qu'on lui impute. Mmh. Un loup ne peut pas décapiter quelqu'un. Un loup ne peut pas...
Parce que les mâchoires n'auraient pas
la
force.
C'est bien il ça, ne peut pas prendre un enfant de 3 ans dans sa gueule et ensuite, comme faisait la bête, sauter par-dessus un muret avec l'enfant dans sa gueule. Ça, c'est tout à fait impossible pour un loup.
Ouais. Ça donne la piste peut-être d'une hyène ou d'un hybride, enfin,
en tout cas d'un animal à très forte mâchoire, avec une mâchoire très puissante, dont les témoins d'ailleurs vont mentionner.
Oui.
Donc puisqu'il faut faire la scène du crime, on voit des cadavres insolites, des cadavres soit déshabillés, décapités, ou avec une partie du corps vêtue d'un manteau et l'autre partie dénudée, comme s'il y avait eu un choix dans le déshabillage de la victime.
Il y avait eu un scénario
prévoyant
les témoins éventuels.
Voilà,
quoi.
Et presque les attirant en disant, voilà, regardez vos cadavres et qu'est-ce que vous en pensez de ces cadavres-là.
Ouais.
Donc on sent qu'il y a une mise en scène.
Mmh. Et puis alors, il y a dans les témoignages qui sont très nombreux et qu'on peut consulter, tous les historiens, consulter les témoignages qui ont été très méticuleusement recueillis, il y a cette histoire de raie noire sur le dos, ce qu'on appelle une raie de mulet. Tous les gens qui connaissent un peu les chevaux savent que les chevaux n'en ont pas, mais que les ânes en ont. Et les chasseurs savent que les sangliers en ont, et en tout cas pas les loups, et même pas les hyènes, d'ailleurs.
Bien sûr.
Est-ce que ça nous donne une indication, cette affaire-là ?
Cela donne en tout cas l'indication d'une bête qui n'est pas habituelle dans le Gévaudan. Alors, on a fait plusieurs hypothèses, effectivement, d'un ours, mais les ours, les paysans les connaissaient bien. Il y avait des ours qui dansaient dans les foires, donc tout de suite, non, ça n'était pas un ours. Est-ce que c'était un énorme chat sauvage ? Impossible, parce qu'un chat sauvage n'a pas non plus la puissance. Est-ce que ça pouvait être une bête, justement, un sanglier ? Non, un sanglier ne peut pas courir vite avec une victime dans sa gueule. Et en plus, il ne mange pas de la chair humaine. Donc, c'est vrai qu'on a petit à petit éliminé les différentes possibilités. Le loup est resté très longtemps une hypothèse qui a été retenue, notamment à la fin par le roi de France, qui a été très content de se débarrasser de cette affaire, parce que ça commençait, si vous voulez, à prendre des proportions inimaginables.
Alors, il y a un petit élément que je glisse comme ça dans la conversation. On va faire une pause ensuite. Et puis là, on va parler de ce Chastel qui est quand même au centre, évidemment, à la fois de vos hypothèses et de votre roman, La Bête. Certains ont émis l'idée que cette fameuse raie noire qui se trouve sur le dos des sangliers pouvait être interprétée comme une intervention humaine, c'est-à-dire le maître de la bête, pour aller vite, qui aurait fabriqué une sorte de gilet pare-balles avant la lettre, en peau de sanglier, qui est très épaisse. Tous les chasseurs savent qu'il faut vraiment bien viser pour tuer un sanglier, et que sa peau est très épaisse et très résistante au bal, comme la bête du Gévaudan, et que ce gilet pare-balles aurait été installé et sanglé donc sur la bête pour la protéger des tirs des chasseurs éventuels. On fait cette pause et vous nous direz ce que vous pensez de cet argument.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Catherine Hermarie Vieille, que vous avez entendu il y a une semaine dans cette émission pour son dernier roman, c'est son actualité, d'or et de sang, aux éditions Albin Michel. Et Catherine Hermarie Vieille a publié un livre dont je vous recommande vivement la lecture, parce que ça s'appelle tout simplement La Bête, mais c'est comme ça qu'on appelait La Bête du Gévaudan à l'époque, hein, à la fin du XVIIIe siècle, roman donc paru également chez Albin Michel. Alors, vous avez entendu mon argument sur cette espèce d'ancêtre du gilet pare-balles qui aurait été fabriqué par une sorte de psychopathe qui aurait effectivement dressé la bête pour tuer. Mais ça, on entrera dans d'autres détails avec vous sur ce point-là tout à l'heure. Mais vous en pensez quoi de cet argument ? Mais
moi, je pense qu'il est très vraisemblable. Parce qu'il est vrai que les coups de baïonnette, on a armé voyant que les petits bergers et les petites bergères se faisaient attaquer. Les parents ont quand même donné des bâtons ferrés à leurs enfants pour se défendre. Étant donné que cette bête, paradoxalement, attaquait les petites bergères et laissait les agneaux tranquilles. Donc, ce qui était aussi étonnant de la part d'un loup affamé qui aurait eu peur de la bergère portant un bâton et se serait jeté sur l'agneau. Et là, c'était pas du tout le cas. Il fonçait directement sur la bergère. Et donc, quelquefois, il a reçu des coups sérieux, des coups de pique, il a reçu des balles et il fuyait. Donc, il y avait quand même un impact sur lui. Mais en aucun cas, il a laissé des traces sanglantes et il réapparaissait avec la même vivacité.
À tel point qu'on a pu même imaginer que s'il y a un personnage humain derrière tout ça, il avait dressé deux bêtes.
Il
expliquerait aussi quelquefois que des attaques, pas simultanées, mais quasiment quand même à des distances assez considérables, se soient déroulées le même jour.
Oui, mais je crois qu'un être humain bien entraîné à marcher avec une bête de la puissance de cette bête peuvent abattre 15 km dans la journée.
Bon, facile, oui.
Facile.
Même plus, à l'époque,
on marchait beaucoup. Oui, on marchait beaucoup. Et en plus, un homme qui connaît parfaitement la région, qui la connaît comme sa poche.
Alors, comme les Jean Chastel et ses enfants.
Comme Jean Chastel, qui est donc natif du Gévaudan, qui a eu deux fils. On ne parle pas de la femme, donc j'en ai conclu, et c'est peut-être la part romanesque, qu'elle était morte, puisqu'on ne parle jamais d'elle. Et donc que ses enfants ont grandi avec le père sorcier, qui prépare des potions, des amalgames un petit peu bizarres, mais qui surtout, vous savez, est un rebouteur, puisqu'il n'y avait pas de médecin dans ces régions-là. Donc il fait des cataplasmes d'herbes, il remet en place les os disloqués. Et c'était des personnages très utiles dans les villages dont on avait grand besoin. Et il avait deux fils, dont un Pierre qui va reprendre, non pas le côté un petit peu étrange de son père, mais les terres qu'il possède. Et puis Antoine, le plus jeune, qui va être ce fameux marginal dans sa forêt.
Alors, qui a eu une histoire, on peut rentrer dans l'histoire de cet Antoine Chastel, parce que c'est vrai qu'on a brodé aussi. Alors, il y a des choses exactes dans sa biographie, d'autres qui semblent avoir été inventées, mais est-il exact qu'il va se faire prisonnier, je crois, à bord d'un bateau qui est parti de Marseille et qu'il va finir par être prisonnier en Algérie ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'Antoine Chastel disparaît à un moment donné. Il va suivre un colporteur, un colporteur qui part vers Marseille. Donc, Antoine Chastel suit ce colporteur, ne dit absolument pas à son père où il va. Et il est vraisemblablement à la recherche d'une vie meilleure, parce qu'il vit quand même dans sa forêt comme une bête. Et il a, à cette époque, peut-être l'espoir de donner à sa vie un tour un petit peu plus joyeux, est un grand mot, mais un peu plus heureux.
Oui, même aventureux.
Aventureux, bien
aussi.
Sûr.
Je passe pas grand-chose dans Lozère, quand
non,
même.
Non, pas grand-chose, t'as jeune garçon.
Il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio.
Il va réapparaître quelques années plus tard un autre homme. C'est-à-dire qu'il va aller chez son père, accompagné d'un ce que le père pense être un très gros chien. Donc il y a une bête à ses côtés, une bête qui lui obéit au doigt et à l'œil. Et Antoine est changé, il est totalement changé. Et il est agressif, il est amer, il est manifestement un homme blessé dans tous les sens du terme. Et il est vrai qu'à cette époque, de Marseille, partaient des bateaux qui allaient vers le Proche-Orient, l'actuel Liban ou l'actuel Israël, pour faire des cargaisons, des pistes de soie, et ça rapportait beaucoup d'argent. Et il y avait à ce moment-là, dans la Méditerranée, des pirates, des pirates qui attaquaient ces bateaux.
Bien sûr, les barbaresques.
Les barbaresques, oui. Et qui... Parce qu'on croit toujours que l'esclavage était toujours d'un côté, mais il existait de l'autre, qui prenait pour esclaves les marins ou les passagers de ces bateaux et qui les amenait à Alger pour servir d'esclaves dans tous les domaines.
Mmh. Et cet Antoine Chastel aurait eu ce destin-là, quoi.
Il aurait eu ce destin-là et il avait pour lui quelque chose de très particulier, c'est son immense connaissance des bêtes. Mmh. Et cette connaissance a été jugée comme indispensable par le bey d'Alger qui avait une ménagerie.
Ah oui, avec des bêtes sauvages, des lions, des tigres.
Oui, et ça, c'est historique. On sait qu'à cette époque, le bey d'Alger a pris comme directeur de sa ménagerie, associé un vieil homme qui s'en occupait depuis longtemps, un esclave lui aussi, un jeune homme qui avait été justement capturé par ces barbaresques et qui va prendre la direction de la ménagerie du dey.
Voilà. Et donc, on peut imaginer que cet Antoine Chastel va finir soit par se racheter lui-même pour acquérir la liberté, soit par s'échapper, tout simplement, avec peut-être des épisodes extrêmement durs qui lui donnent une raison de détester l'humanité.
Bien sûr, parce qu'un esclave mâle et jeune était potentiellement dangereux dans la mesure où il pouvait être agressif. Donc on notait cette agressivité comme on le faisait pour les boucs ou pour les taureaux en les castrant. Et apparemment, ça les rendait dociles et il n'y avait plus de question de bataille ou d'agressivité. Donc, il est très probable qu'Antoine Chastel, qui n'était déjà pas un homme facile, qui était déjà quelqu'un de violent, quelqu'un qui n'aimait pas qu'on lui donne le moindre ordre, a été castré et qu'il est reparti, puisqu'il a ressurgi en Lozère, un jour ou l'autre.
On se retrouve dans un petit instant, la suite de cette histoire passionnante avec Catherine Hermary-Vieille.
L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Catherine Hermary-Vieille. On parle de cette histoire passionnante qui l'a passionnée, elle en tout cas, au point d'en faire un roman, La Bête, publié donc chez Albin Michel et que je ne peux pas ne pas vous recommander de dévorer, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est vrai, non, c'est une histoire formidable, évidemment. Et en même temps, votre point de vue est un point de vue très original, puisque au lieu de chercher à savoir si... c'est une bête échappée d'un cirque qui aurait été dressé à tuer par un chasseur et qui une sorte de créature qui aurait échappé à son créateur. En fait, vous dites, non, peut-être qu'il y a le créateur et la créature, et peut-être que ce créateur, c'est-à-dire ce tueur en série, parce que c'est quelqu'un qui a une colère absolument énorme contre l'humanité, qui pense qu'il ne pourra plus jamais se réconcilier avec l'humanité, qui peut-être ne peut plus avoir d'enfants. Parce qu'il aurait été peut-être torturé et il aurait subi des mutilations qui l'empêcheraient d'avoir des relations sexuelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on l'a dit aussi. Et pourquoi pas cet Antoine Chastel qui dresse un animal. Il est très familier d'un certain nombre d'animaux sauvages et qui, une fois rentré en Lozère, va assouvir cette haine par ce scénario morbide.
Oui, va tuer à travers sa bête et lui-même petit à petit devient une bête. C'est-à-dire que les crimes deviennent de plus en plus horribles et ont manifestement pas pour nourrir une bête. La bête quelquefois ne touche pas aux cadavres. Donc on trouve des cadavres qui ont été égorgés mais qui n'ont pas été du tout mangés. Mmh. Donc on sent que petit à petit, ce n'est plus du tout le but pour une bête d'attaquer pour se nourrir, mais qu'il y a quelqu'un derrière qui assouvit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une grande colère, une grande rage, et qui lui-même, petit à petit, sa bête c'est lui, et lui et sa bête.
Et qui revient peut-être sur les lieux du crime, lorsque les victimes disparaissent pendant quelques heures ou quelques jours, pour, si j'ose dire, finir le travail. C'est-à-dire, ça expliquerait ces têtes coupées qui n'ont aucune marque de croc. Et donc, ça irait dans le sens de cette hypothèse. Il y a également, vous développez également, Catherine et Marie Vieille, un autre argument qui peut permettre, si j'ose dire, entre les lignes, de se dire, il y a un homme derrière tout ça. Parce qu'il va y avoir un bras de fer dans l'histoire. L'histoire a duré pendant plusieurs années, mais à un moment, on l'a dit tout à l'heure dans le récit, le roi de France envoie son grand...
Oui, louvetier, directeur des chasses,
voilà,
oui.
Bon. Et là, ça va se terminer par un loup abattu, mais qui ne se révélera pas le bon, si j'ose dire. Mais le louvetier, il reste pendant quelque temps, il se passe des choses, et vous y voyez la marque d'une espèce de duel.
Oui, absolument, parce que ce personnage considérable qui va arriver avec pompe dans ce pauvre village de Lozère, qui va immédiatement réquisitionner les logis pour y installer ses hommes, enfin pour les paysans c'était une catastrophe, mais ce grand louvetier est tellement sûr de lui que je pense que Antoine Chastel, en tout cas le propriétaire de la bête, tout d'un coup a vu une autre possibilité d'assurer une certaine puissance qu'il n'a plus, une puissance physique qu'il n'a plus, mais il a encore la possibilité de mettre le roi de France lui-même en échec et mat. Et il va, le grand louvetier, quand il va être dans un point A, la bête va attaquer dans un point B. Quand le grand louvetier va décider de faire des battues, on va effectivement trouver quelques vieux loups qui ne peuvent pas se sauver. Il va jamais, ce grand louvetier, pouvoir dire « ça y est, c'est fini ». Et quand enfin il tuera un gros loup, certainement un gros vieux loup qui a reçu quelques décharges de chevrotine de la part des chasseurs locaux, eh bien il dira « ça y est, j'ai tué la bête ». Et l'Antoine Chastel attendra un peu pour voir son triomphe à Versailles.
C'est de suspense macabre.
Et dès que le grand louvetier triomphe à Versailles, on le félicite et qu'on jette dans une fosse cette bête épouvantable qui empeste, eh bien, il recommence immédiatement.
En fait. Voilà, parce que ça, on ne l'a pas dit hein, tout à l'heure. Quand Chastel tue la bête, qu'on croit être la bonne, si j'ose dire, elle est mal empaillée, hein, je crois que...
Oui, voilà, très bien.
Elle prend le chemin de Paris et de Versailles, quoi,
oui.
Pour aller être présentée à Louis XV. Et elle sent tellement mauvais
en
que le roi, ne veut absolument pas l'avoir. Quoi.
Non.
Dit, bah, enterrez-moi ça
part. Elle dégage une odeur absolument pestilentielle. Ouais. Et donc, on la jette dans une fosse et on n'en parle plus.
Mais il y a quand même des éléments troublants. C'est pour ça que je trouve l'histoire garde encore aujourd'hui sa part de mystère. C'est pour ça que je vous demandais s'il n'y avait pas eu plusieurs bêtes. Parce que quand, dans les constatations, on a retrouvé, ce sont des documents historiques, quand on ouvre la panse de ce loup, il y a la tête de fémur d'un enfant. Alors, est-ce qu'on s'est trompé ?
À mon avis, oui, parce que c'est sûr que les loups mangeaient quelquefois les enfants qui s'aventuraient dans la forêt avec leur grand-mère pour ramasser du bois. Il y avait certainement des loups qui attaquaient des enfants. Le loup a peur de l'homme, comme vous avez dit, mais s'il a très faim et que c'est dans une période où il n'y a pas de gibier, par exemple en hiver, il attaquera, surtout des êtres sans défense, un petit enfant, une vieille femme, il n'attaquera pas un homme armé d'un bâton. Mais effectivement, moi, à mon avis, ce loup n'a que peu ou pas du tout à voir, parce que ce qui sera intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, Jean Chastel, le père, qui sait... À mon avis, parce qu'il a vu son fils revenir. Il vit dans la montagne, le fils. Il vit comme une bête dans les grottes.
Comme une sorte d'ermite.
Avec sa bête et un chien, d'ailleurs. Pour ça, on signale, plusieurs personnes signalent deux bêtes. Mais c'est une grande bête qui n'a rien à voir avec la bête qui attaque. C'est une autre bête. Et là, c'est très possible que ce soit un chien que Antoine Chastel ait recueilli. Mais il n'y a pas de trace d'attaque de la part de ce chien. Et en fait, Jean Chastel sait qui est la bête et qui manipule la bête. Mais à cette époque, dans les familles de Lozère, on n'appelait pas les gendarmes, on réglait les histoires en famille.
Alors, on verra tout à l'heure, après la pause qui s'annonce, et ce sera la dernière partie de notre émission, peut-être comment vous imaginez que Jean Chastel ait mis fin, en tout cas à la vie d'une bête, avec cette fameuse balle. L'a-t-il surpris ? Pourquoi lui a-t-il réussi ce qu'aucun de ceux qui avaient chassé la bête n'avait jamais réussi depuis plusieurs années ? On en parle dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est Catherine Hermary-Vieille qui est mon invitée aujourd'hui pour parler de l'énigme et des zones d'ombre de cette affaire de la bête du Gévaudan qui n'a pas fini de faire couler maintenant de l'encre et plus du sang, on peut s'en féliciter. On reviendra quand même tout à l'heure à ce personnage d'Antoine Chastel, au père aussi, et de savoir comment finalement et pourquoi Jean Chastel a pu savoir qu'il avait rendez-vous d'une certaine manière avec la bête. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse touristique dans cette émission. Alors, ce n'est pas un conseil pour la semaine prochaine, parce qu'en général, en Lozère, les hivers sont quand même assez rigoureux. On va saluer tout de suite Madame Blandine Gire. Bonjour, Madame.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes la responsable du musée fantastique de la bête du Gévaudan, qui se trouve donc à Saugues, en Haute-Loire.
Oui, c'est ça.
Alors, évidemment, vous êtes au cœur là d'une région où on continue à parler de la bête du Gévaudan. Ça attire beaucoup de visiteurs tous les ans.
Oui, on a à peu près 10 à 11 000 visiteurs par an.
Ah, dites-moi. Alors, qu'est-ce que c'est un parcours, je crois, que votre musée propose aux visiteurs avec une succession de scènes qui racontent l'histoire de la bête?
Voilà, c'est ça. C'est des scènes, il y a 22 scènes guidées par la lumière et le son.
Oui.
Ça fait tout un parcours où les gens se promènent, ils suivent et ça leur raconte l'histoire.
Et alors, qu'est-ce qu'on évoque? Il y a des mannequins, enfin, c'est un peu comme le musée Grévin ou ce sont des dessins? Racontez-moi.
C'est des mannequins, des scènes avec des personnages pratiquement grandeur nature,
oui.
Du moins de l'époque, donc ils sont un peu plus petits que nous.
Mmh.
Et ils circulent, la lumière s'allume au fur et à mesure, et puis ça leur explique par la bande sonore l'histoire de la bête.
Voilà. Et la bête en elle-même, elle est représentée? Il y a un animal empaillé qui est là?
Ah non, c'est tous des personnages en plâtre, on n'a pas la vraie bête. Hein.
Vous n'avez pas la vraie bête, mais c'était ça la question que je voulais vous poser. Et comment réagissent les visiteurs?
Ils aiment bien, ça leur fait un peu peur parce que l'histoire est quand même terrifiante.
Ouais.
Mais ils aiment bien, et puis en sortant, ils n'ont pas la réponse, donc ils posent des questions, ils cherchent des hypothèses, voilà.
Ben voilà, ça continue à faire parler, et puis il y a la boutique, hein, je crois, qu'est-ce qu'on peut emporter comme souvenir de la visite au musée fantastique de la bête du Gévaudan?
Il y a des petites figurines de bêtes, il y a des cartes postales, il y a des magnettes, il y a des petits objets, quoi.
Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on voulait vous faire un petit clin d'œil, dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur RTL que ce musée existe. Effectivement, c'est un but de promenade touristique. Vous avez dit, un peu plus de 10 000 personnes par an. Et il vaut mieux qu'ils viennent à partir du 15 juin. Hein.
Voilà, on est ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre. Et puis après, pour les groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Voilà.
Et les individuels, s'ils veulent, ils se greffent au groupe.
Voilà.
Et
puis, de toute façon, 15 juin, 15 septembre, c'est la période où la bête s'exprimait un peu partout.
C'est une belle époque.
Mais maintenant, on peut se promener tranquille. Hein. Il n'y a pas de danger. Merci beaucoup, madame. Merci.
Merci.
C'était Blandine Gire. Donc, et on va mettre évidemment sur rtl.fr tous les contacts qui vous permettront d'appeler pour vous renseigner. Alors, il nous reste quelques minutes, Catherine Hermary-Vieille. Alors, Jean Chastel, est-ce qu'il avait rendez-vous avec la bête ce jour-là?
Oui, on va conclure bien sûr par la fin de la bête et l'implication de Jean Chastel dans cette fin, car après que Jean Chastel ait tué cette bête, il n'y a plus du tout d'attaque, c'est fini, c'est complètement terminé. Donc on peut en conclure d'une façon logique qu'il a tué la bête. Et en fait, c'est arrivé très vite après un dernier meurtre qui était le meurtre d'une petite fille qui s'appelait Marie, qui était la filleule de Jean Chastel. Et Jean Chastel y était très attaché à cette petite fille. Et cette petite fille va mourir égorgée, mais son corps absolument pas touché. Parce que Antoine Chastel la connaissait bien lui aussi, cette petite fille. Il la voyait chez son père quand il allait faire des visites à son père. Et à partir du meurtre de cette petite Marie, Jean Chastel décide que c'est à lui maintenant de faire justice. Et il prend un fusil, ils font des bédailles effectivement de la Vierge, parce que vous savez, cette époque est une époque encore très superstitieuse, très religieuse. Et il monte en haut du mont Mouchet, où son fils, il sait très bien que son fils habite
son
là.
Son fils est garde forestier
il sait où son fils gîte.
Ouais.
Et là, quand il arrive en haut, il voit cette bête, qui l'attend. Il vient avec quelques personnes avec lui, il n'est pas seul. Oui. Donc il y a des témoins qui vont voir cette bête attendre Jean Chastel, tranquillement assis sur son derrière, comme s'il connaissait parfaitement, ne tentant aucune fuite. Et là, Jean Chastel va crier « Bête, bête, tu vas mourir !» Et il tire. Et la bête est foudroyée, donc elle n'a manifestement à ce moment-là pas de protection d'aucune sorte. Et il est possible, probable, on n'en sait rien, qu'il a peut-être aussi tué le meurtrier. Et que comme la bête et Chastel étaient un, en fait, ils étaient devenus un par leur folie et leur amour réciproque, parce qu'il y a l'un et l'autre, que très probablement, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est très probable, il a aussi tué son fils, parce que c'était lui qui devait faire justice.
Donc, voilà. Antoine Chastel, on ne sait pas ce qu'il est devenu à partir de cette époque.
Si, on a une histoire de la famille Chastel, il est rentré au village, le fils Pierre a une descendance. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore des Chastel dans Lozère.
Mais Antoine, alors
Antoine, non.
Parce que vous dites peut-être Jean Chastel a tué son fils, peut-être. Alors.
Oui, c'est très possible.
On n'a plus, on n'a pas de traces de ce qui est devenu Antoine par la suite.
Par la suite. Alors, est-ce qu'il s'est de nouveau sa bête morte? Est-ce qu'il est parti dans une autre région? Est-ce que ça, c'est encore le grand mystère de cette histoire qui reste, justement, par ses côtés non complètement résolus, mais il y a des hypothèses très probables, mais ça reste quand même une énigme.
J'aime bien quand les historiens nous racontent des histoires, mais j'aime beaucoup quand des romanciers revisitent l'histoire. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci infiniment. C'était un plaisir de vous avoir deux fois en 8 jours à l'antenne d'RTL, Catherine et Armand Rivière. Donc, La Bête, c'est le titre de ce roman dont on a beaucoup parlé chez Albin Michel. Et votre actualité, donc, de Sang et d'Or, qui revisite également, alors à votre manière et avec votre talent, bien sûr, les derniers rois de la Renaissance, et avec ce point d'orgue qui est l'assassinat du duc de Guise qui va changer le cours de l'histoire. Je vous remercie, je vous souhaite bon voyage de retour parce que je sais que vous allez partir bien loin, bien loin de Paris. On espère vous revoir très vite. L'émission est maintenant terminée. On vous souhaite évidemment, avec encore 24 heures d'avance, aller une très 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 bonne année 2017 puisque nous sommes le 30 décembre. Bah, sachez que demain le 31, on pensera à vous toute la journée et on se retrouvera l'année prochaine pour une nouvelle édition de L'Heure du Crime.
L'Heure du Crime sur RTL.